Chapitre 6 Le fils prodige. Partie 1. À des kilomètres de là, au ministère, la fête battait son plein. L'inauguration du nouveau département des accidents et catastrophes magiques avait attiré de nombreux sorciers, désireux d'oublier les événements tragiques qui agitaient le monde extérieur. Les locaux du département venaient d'être refaits à neuf, en grande partie financés par la fortune des Malfoy. Lucius déambulait donc avec aisance dans les couloirs d'une propreté impeccable, tout en examinant avec attention la qualité des travaux effectués. Le parquet sombre et rutilant était parfaitement ciré, et sur les murs carrelés de vert émeraude, aucun défaut n'était visible. Les locaux étaient situés au troisième étage du ministère de la Magie, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres sous terre, mais ils étaient pourtant pourvus de fenêtres, qui montrait un paysage modifiable au gré des envies des employés. À intervalles réguliers, le symbole du département était plaqué sur le mur ou au-dessus des portes. Deux anneaux ovales imbriqués, au centre duquel brillait une étoile à sept branches flanquée des initiales D, A, C, M. La salle centrale était immense, hexagonale, occupé en son centre par une grande table de la même forme. Une carte du Royaume-Uni aux inscriptions anciennes et à la couleur parcheminée était imprimée sur toute la surface de la table. Sur une estrade, une jeune femme vêtue de rouge en expliquait le fonctionnement à une foule de spectateurs impressionnés.
Dès qu'un incident magique se produit, une alarme se déclenche dans cette pièce, disait-elle avec fierté. La carte indiquera aussitôt le lieu, le mécanisme, mais aussi le coupable éventuel de l'incident. Cela permet à la brigade de réparation d'agir au plus vite.
Le regard de la jeune femme balaya son assistance du regard et croisa celui de Lucius. Aussitôt, ils échangèrent un sourire entendu. Tous les deux se connaissaient bien. Deux années auparavant, Marla avait été renvoyée par le patron du chaudron baveur qui trouvait qu'elle consacrait trop de temps à faire des tours de passe-passe pour impressionner ses clients. Par pure coïncidence, Lucius se rendait ce jour-là au chaudron baveur pour offrir quelques galions à un de ses informateurs en l'échange de révélations précieuses à propos des affaires qui agitaient le monde magique. Il avait d'abord été impressionné par l'habileté magique de la jeune femme et par ses capacités à embobiner tous ceux qui l'observaient. Mais surtout, il avait reconnu chez elle l'absence totale de scrupules qui caractérisait tous ses potentiels associés. Il avait donc décidé de lui proposer son aide, ce qu'elle avait volontiers accepté. Lucius l'avait recommandé à quelques relations, et de fil en aiguille, la jeune femme s'était vue confier des postes de plus en plus avantageux d'ingénieur magique, jusqu'à être celle qui concevrait la pièce maîtresse du nouveau département des accidents et catastrophes magiques. La jeune femme qui présentait sa nouvelle création était bien différente de celle qui amusait les clients en transformant les chopes de bière au beurre en clarinettes, renfrognées derrière son comptoir crasseux. Debout sur son estrade, adulée par une armée de regards admiratifs, elle rayonnait, éblouissante, dans une longue robe de satin rouge. Et tout cela, c'était grâce à Lucius. Après avoir terminé son discours, Marla serra de nombreuses poignées de main et reçut de nombreux bouquets de fleurs tout en se frayant un chemin vers Lucius, tout sourire. Toutes mes félicitations, commenta Lucius en désignant les innombrables bouquets que Marla avait reçus. Votre carrière vient de décoller de façon spectaculaire.
C'est sûr, ricana Marla, dont le passé vulgaire refaisait surface de temps à autre. J'aurais aimé que ce gros lourdeau de Glimps soit là pour voir ça.
Lucius sourit en pensant à la manière dont le patron du chaudron baveur avait renvoyé Marla. Ce fameux Glimps devait s'en mordre les doigts désormais.
Il entendra parler de vous, je n'en doute pas, dit Lucius en désignant Rita Skeeter qui se promenait dans un coin de la salle, sa plume à papote s'agitant frénétiquement au-dessus du calepin qui flottait dans les airs, à côté d'elle.
Marla lui fit un clin d'œil appuyé.
Tout ça, c'est grâce à vous, monsieur Malfoy, dit-elle en saisissant deux coupes de champagne sur un plateau d'argent qui passait à côté d'eux. Je suis certain que vous saurez me remercier, dit Lucius en prenant la coupe que lui tendait Marla.
« C'est déjà le cas, » dit-elle en caressant amoureusement les contours de la carte. « J'y ai apporté quelques modifications de mon cru. Si, un jour ou l'autre, vous ou l'un de vos amis provoque un accident magique, la carte mettra un peu plus de temps à réagir que d'habitude. Et les coupables ne seront pas identifiés, bien évidemment. »
Lucius haussa les sourcils, admiratif. Leur coupe de champagne s'entrechoquèrent avec un tintement cristallin, et ils échangèrent un sourire satisfait. Marla but sa coupe d'un trait, avec un air de défi, et Lucius fit de même. Ils discutèrent quelques instants, puis Lucius se souvint qu'il avait d'autres interlocuteurs à solliciter, à féliciter et à menacer.
« Je vous laisse à vos admirateurs, » dit-il pour mettre fin à leur conversation, en désignant un grand nombre de personnes qui attendaient leur tour, pour parler à Marla.
« Dommage, » commenta Marla en haussant les épaules et en s'éloignant d'une démarche chaloupée.
Lucius la regarda s'éloigner avec un sourire amusé, puis embrassa du regard le reste de la salle hexagonale. Tout autour de la table centrale, d'autres bureaux s'alignaient. Ils étaient destinés au travail, mais pour l'heure, ils étaient recouverts de grandes nappes couleur prune et de nombreux plats somptueux s'y alignaient. Le département des accidents et catastrophes magiques, comme son nom l'indiquait, avait pour rôle de résoudre tous les problèmes qui découlaient d'un incident causé par la magie. L'immense panneau qui recouvrait tout un mur de la pièce hexagonale expliquait très bien la procédure à suivre. Le dit panneau se divisait en trois parties qui correspondaient aux trois étapes du plan officiel. Secourir, effacer, apaiser. La première était le travail de la brigade de réparation des accidents de sorcellerie. Les forces des tâches invisibles et le quartier général les oubliators se chargeaient de la deuxième, qui consistait non seulement à réparer les dégâts, mais également à modifier les mémoires des témoins moldus afin que l'existence du monde magique reste bien secrète. Et enfin, le comité des inventions d'excuses à l'usage des moldus se préoccupait d'inventer toutes sortes d'excuses non magiques pour expliquer les phénomènes étranges qui avaient eu lieu. Voldemort ne leur facilitait pas la tâche, car chacune de ses victimes était agressée d'une manière différente, et le comité des inventions d'excuses peinait à égaler l'inventivité du mage noir et de ses sbires quand il s'agissait d'expliquer aux moldus comment les chaussures d'un groupe de victimes avaient pris feu en pleine rue, sans aucun élément déclencheur apparent, ou comment les visages d'autres jeunes moldus s'étaient retrouvés couverts d'écailles. Tout en serrant les mains et en prenant des nouvelles de ceux qui méritaient son attention, Lucius s'approcha de l'immense panneau qui regroupait toutes les situations envisageables et comment y remédier. Dans la partie de gauche, celle qui concernait la première phase, secourir, Lucius examina une affiche qui titrait
« Que faire en cas d'incendie d'origine magique ?»
Les différentes étapes étaient ensuite détaillées avec précision et soigneusement illustrées, allant de déterminer l'origine de l'incendie, dragon, feu démon ou explosion accidentelle, à évacuer les différentes victimes, que celles-ci soient des sorciers ou des moldus. En lisant cette étape, Lucius fronça les sourcils, contrarié. C'était précisément ce qu'il espérait ne pas lire.
« Ah, monsieur Malfoy, vous voilà !»
dit une voix féminine en l'interrompant dans sa lecture. Elsa Toothill était une femme de taille moyenne à la peau mate et aux grands yeux noirs, dont le menton toujours levé et les gestes énergiques en disaient long sur l'autorité et sur l'ambition qui l'animait.
« Madame Toothill, » la salua Lucius en s'inclinant, « je vois que vous venez inspecter le résultat. »
« Oui, le déménagement commence demain, »
confirma la directrice du département des accidents et catastrophes magiques.
« Je voulais à nouveau vous remercier pour votre don. »
Lucius sourit intérieurement. Ceux qui le craignaient prenaient toujours soin de le flatter lorsqu'ils avaient quelque chose à se faire pardonner. Quand un échange commençait ainsi, Lucius savait que son interlocuteur était à sa merci.
« Je ne l'ai pas fait par charité, vous le savez bien, » répondit-il avec froideur.
Eugenia Jenkins avait été extrêmement réticente à accepter la donation de la famille Malfoy.
Mais lorsque le plafond de l'ancien département avait commencé à tomber en poussière et que les oubliateurs et les excusateurs s'étaient mis en grève, Jenkins n'avait pas eu d'autre choix que celui de revenir sur ses paroles.
« bien entendu, » assura Madame Toothill avec un sourire crispé. « Vous savez, j'ai choisi mon agent le plus compétent pour s'occuper du Wildshire, et le deuxième pour la partie de Londres où se trouve la colline d'Emeraude. Les accidents qui ont lieu là-bas seront les mieux pris en charge, je peux vous l'assurer. »
« tant mieux, » dit Lucius. Il attendait la suite avec impatience et se délectait de voir les mains d'Elsa Toothill trembler face à lui alors qu'elle avait le double de son âge.
« Cependant, en ce qui concerne votre deuxième requête... »
Elsa Toothill regarda le sol embarrassé.
« Je ne crois pas pouvoir la satisfaire, » dit-elle d'une toute petite voix.
« C'est ce que j'ai constaté, en effet, » dit froidement Lucius en désignant la fiche. « Je croyais pourtant avoir été clair. Vous deviez spécifier dans vos directives que les sorciers devaient être secourus en priorité avant les moldus. Nous avions pourtant un marché.
« J'ai fait tout ce que j'ai pu, monsieur Malfoy, »
dit Elsa Toothill d'une voix suppliante.
« Mais vous savez, par les temps qui courent, faire ce genre de distinction peut être source d'ennui. On pourrait croire que je cautionne ces meurtres affreux. »
« Ça, c'est votre problème, » répliqua Lucius. « Je vous pensais pourtant averti du sort qui est réservé à ceux qui me déçoivent. Il serait regrettable qu'un tragique incident vienne ravager ces locaux si rutilants, n'est-ce pas ?» Lucius regarda autour de lui les yeux plissés.
« Les murs sont particulièrement fins, ici, » dit-il. « Un feu démon se propagerait en un clin d'œil. »
« Et cette pauvre affiche ne vous serait d'aucune utilité, » dit Lucius en désignant, avec un sourire ironique, l'affiche qui détaillait la marche à suivre en cas d'incendie.
« Monsieur Malfoy !»«
Vous avez jusqu'à demain pour refaire tout ce panneau et y inscrire ce que nous avons convenu, » dit Lucius. « Si j'étais vous, je ne prendrais pas le risque d'avoir du retard. » Il grimaça un demi-sourire et... sans prendre la peine d'écouter la réponse d'Elsa Toothill, il s'éloigna à grands pas, à la recherche de ses quelques amis qui se promenaient dans les locaux. Sur son passage, on le saluait avec crainte et respect, en inclinant la tête et en rajustant sa tenue. Comme il était agréable de décider de toutes choses, d'avoir le pouvoir de briser des carrières et d'en forger d'autres, de tenir tous ses destins à la merci de sa bourse, de faire vibrer le monde à la force de ses menaces. Tout en se délectant de ses agréables pensées, Lucius poursuivit son chemin et rejoignit un petit groupe de jeunes gens, presque aussi bien vêtus que lui, en train de converser gaiement, assis autour d'une table. Toute la jeunesse dorée du monde magique était là. L'élite des sangs purs, les fines fleurs de la colline d'Emeraude, la plupart des collinards, comme les désignaient ceux qui en étaient jaloux. Tous ces jeunes gens avaient à peu près le même parcours que Lucius. Ils étaient habitués à orchestrer des manigances en secret et à récolter les honneurs au ministère en dispensant quelques infimes portions de leur fortune démesurée. « Et voilà le roi de la soirée !» exulta le plus grand d'entre eux en voyant Lucius approcher. Le grand jeune homme blond leva son verre dans sa direction, imité par ses voisins. « Bonsoir, Rosier !» le salua Lucius. Evan Rosier était le fils aîné d'Oportus Rosier, l'oncle maternel de Narcissa. Il était vêtu d'un pardessus bleu et, comme d'habitude, une rose aux pétales denses provenant de son splendide jardin était épinglée sur sa poitrine. Il tira une chaise à côté de lui et Lucius s'y laissa tomber. À sa gauche se trouvait Damian Knott, un jeune homme asiatique aux longs cheveux noirs et lisses qui portait un pardessus doré avec une abeille brodée de fil noir sur la poitrine. Ils discutèrent avec animation et tous félicitèrent Lucius pour avoir réussi à financer la réparation des locaux, étendant ainsi davantage l'influence des sangs purs au sein du ministère. Cependant, après quelques coupes de champagne, les pensées de Lucius se mirent à dériver vers Narcissa et sa mine s'assombrit.
Il avait beau remporter tous ses succès, son épouse n'y accordait aucune importance et ne pensait qu'à une chose, avoir un enfant.
Lucius ne comprenait pas très bien cette obsession étrange, et en réalité, cette idée l'effrayait plus qu'autre chose. Il comprenait que l'enfance de Narcissa avait été la plus belle période de sa vie et qu'elle souhaitait ardemment la revivre à travers la maternité. Mais quand on parlait d'enfance à Lucius, une armée de souvenirs douloureux venait l'assaillir et il sentait son estomac se cabrer. Ainsi, lorsque Narcissa racontait les jeux qu'elle avait partagés avec Daisy et cette belle insouciance qu'elle avait connue sur la colline d'Emeraude, Lucius faisait de son mieux pour la comprendre. Mais malgré ses efforts, il ne parvenait pas à concevoir ce bonheur-là qui ne lui avait jamais été accordé. Alors que ferait-il d'un enfant, lui qui avait tant détesté en être un ?
« Eh bien, Lucius, de quoi rêves-tu ? » l'interrompit Evan Rosier en lui donnant une tape sur l'épaule.
Lucius sursauta, et il renversa un peu de champagne que Rosier vint aussitôt compenser en remplissant sa coupe à ras-bord.
« Nous nous sommes un peu disputés avec Narcissa, » avoua Lucius. « Rien de grave, » ajouta-t-il aussitôt en voyant Juliette Selwyn regarder vers lui, pleine d'espoir.
Rosier haussa les épaules comme si cela n'avait aucune importance.
Lucius se tourna donc vers Damian Knott, qui était le seul avec lui à être déjà marié.
« Ça ne vous arrive jamais avec Magdalena ?»
Knott eut un petit rire, comme si l'idée était totalement absurde.
« Pour se disputer, encore faut-il se parler ?»
dit-il à voix basse afin que ses proches voisins soient les seuls à l'entendre.
« Et Magdalena ne parle pas. Elle déblatère. Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose d'intelligent. »
Il disait cela avec fierté, comme si c'était quelque chose d'appréciable.
« Et cela te satisfait ?» demanda Lucius.
Knott haussa ses épaules étroites.
« Tout ce que je demande, c'est une bonne épouse qui me fasse de beaux enfants et qui ne me résiste pas trop au moment du coucher »
s'exclafa-t-il.
« Coquin !»
Evan Rosier éclata d'un rire sonore. Mais Lucius haussa les sourcils avec mépris et but une gorgée de champagne.
« Tu oublies le sang pur !»
fit remarquer Balderic Parkinson qui était assis à côté de Damian Knott.
« C'était tellement évident que je n'ai pas jugé utile de le préciser, » répliqua Knott.
« Bon, Lucius, raconte-nous à propos de quoi vous êtes-vous disputé ?»
s'enquit Evan Rosier.
Lucius hésita un instant, puis, enivré par le champagne, leur livra ce qu'il avait sur le cœur.
« Narcissa rêve d'être enceinte, » dit Lucius. « Depuis le mariage, elle ne pense qu'à cela et elle s'impatiente de plus en plus. Et hier, elle m'a accompagné quand je suis allé au pensionnat Wimbley. Alors, elle a vu tous ses jeunes enfants. Ça s'est mal passé, voilà tout.
« Quelle idée tu as eue aussi d'épouser une blague ?»
commenta Parkinson en levant les yeux au ciel.
« C'est bien connu, ce sont de vraies tigresses. »
« Moi, je suis d'accord avec Lucius, »
déclara Rosier en lui secouant vigoureusement l'épaule.
« Il me faut une femme de caractère. Hélas, l'éducation qu'on leur donne sur la colline d'Emeraude n'y est pas très propice. »«
Tu n'as qu'à épouser la ministre !»
railla Parkinson en désignant la petite femme en robe bleue qui était entourée de tous les notables du Magen Mago.
« Jenkins, ah, j'aurais adoré !»
s'exclama Rosier sans saisir l'ironie du propos.
« Elle, au moins, je suis sûr qu'elle a de la poigne. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tout à fait compatibles sur le plan des convictions politiques. »
À ces mots, le sourire de Damian Knott se figea. Alors que Lucius replongeait dans ses sombres pensées, Knott regarda tour à tour Balderic Parkinson et Evan Rosier avec le plus grand sérieux et tous les deux acquiescèrent d'un signe de tête.
« Lucius ?
Hmm ?
Nous voulions te parler de quelque chose, »
dit Evan Rosier en remplissant à nouveau le verre de Lucius à ras-bord. Lucius se redressa et fit un geste du menton pour les inciter à parler.
« Oui, je vous écoute. »
Rosier, Knott et Parkinson
s'entre-regardèrent afin de décider lequel d'entre eux allait se dévouer pour expliquer leur plan. Puis ce fut Evan Rosier qui prit la parole.
« C'est à propos de, tu sais, ce mage noir. »
Malgré la gravité de son interlocuteur, Lucius émit un petit rire moqueur. « Toi non plus, tu n'oses pas prononcer son nom. Tu sais, nous autres sang pur, n'avons rien à craindre de lui. »
« Nous n'en sommes pas convaincus, »
coupa Evan Rosier. Lucius haussa un sourcil, peu habitué à être contredit par ses pairs.
« Ici, au ministère, Jenkins et ses conseillers déploient des efforts considérables pour minimiser la menace qu'ils représentent. Mais nous avons eu d'autres informations contradictoires de la part des crabes qui ont, toujours, un œil sur l'allée des embrumes. On dit qu'il ranime les morts et connaît des envoûtements qui dépasse notre imagination, qu'il est de la même stature que Gellert Grindelwald. Non, Lucius, nous pensons qu'il est puissant, assez puissant pour renverser le pouvoir en place.
En fait, écoute, Lucius, nous voudrions le rejoindre.
Lucius s'en étrangla avec son champagne et se mit à rire.
C'est une plaisanterie.
Mais aucun de ses trois amis n'avait l'air de plaisanter.
« Vous n'êtes pas sérieux ?»
D'un geste, il désigna la myriade de vêtements somptueux qui virevoltaient autour d'eux, les plats exquis qui s'alignaient sur les tables et les sorcières plantureuses qui les regardaient du coin de l'œil. « Vous voulez renoncer à tout ce luxe, à tous ces succès, pour rejoindre une bande de mécréants sanguinaires qui, de toute manière, nourrirait au nez ?»«
Oh, je ne crois pas qu'ils nourriraient au nez !» dit Parkinson en secouant la tête.
« Au contraire, » assura Nott, « ils seraient ravis que nous venions renflouer leur rang et surtout financer leur guerre. Ils sont puissants mais furieux de voir que leur projet n'enthousiasme pas l'entièreté des sangs-purs. »
« Et pourtant leur projet m'enthousiasme ?» rectifia Lucius. « Mes ancêtres et moi-même luttons pour ce même projet depuis des siècles. »«
Mais sans efficacité, » fit remarquer Parkinson.
« Cependant, leur manière de lutter ne me convient pas. » soutint Lucius en secouant la tête. « Pourquoi se salir les mains quand on peut influencer le monde depuis son fauteuil ?»«
Parce que c'est bien plus efficace, »
susurra Nott.
« Et que c'est parfois nécessaire, » appuya Parkinson.
Evan Rosier se pencha encore vers Lucius et lui saisit le bras, mais Lucius s'écarta de lui.
« Pourquoi êtes-vous si empressé tout à coup ?»
demanda Lucius irrité.
« Nous avons tous les moyens de nous protéger. Laissons ce mage noir faire le ménage si ça lui chante. Cela ne peut nous être que profitable. Mais ne nous en mêlons pas trop. Ce serait prendre des risques inutiles. Attendons un peu et rejoignons-le quand la victoire sera assurée. »
« Je crains que nous n'ayons plus le choix, » dit Parkinson avec gravité. Tu l'as bien vu, ils ont commencé à assassiner des sorciers.
Nous ne serons pas en tête de liste, répliqua Lucius. S'il est assez intelligent pour mériter notre intérêt, cet homme serpent éliminera d'abord le fond du panier.
Cassandre Chabi était une sang pure, rappela Nott. Non, Lucius, tu te trompes. Quiconque refuse de se soumettre à lui subira le même sort.
En revanche, pour ceux qui le rejoignent,
c'est la gloire assurée, conclut Rosier dans un souffle.
Lucius regarda tour à tour ses trois voisins qui le regardaient avec un espoir fiévreux.
Je ne comprends pas votre insistance, s'agaça Lucius. Pourquoi n'allez-vous pas le rencontrer vous-même?
Il avait la désagréable impression que ses amis voulaient l'envoyer en éclaireur, afin qu'il brave tous les dangers à leur place. Or, s'il y avait bien une chose que Lucius avait en horreur, c'était le danger.
« Lucius, tu ne comprends pas, » dit Rosier en se penchant vers lui pour lui prendre le poignet. « Tiens, allez, reprends donc un peu de champagne. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse unir tous les sangs purs derrière lui. Crabbe a commencé à nous convaincre. Mais les Goyle, les Selwyn et les Flint sont encore réticents. Et je refuse que la colline d'Emeraude s'entre-déchire. Les sans-purs pourraient se trahir, se dénoncer entre eux. Non, non, il nous faut une figure de proue
quelqu'un qui annihile toutes nos petites querelles internes et qui décide l'intégralité de notre camp à s'unir d'un même mouvement à tu sais qui.
Et tu es tout désigné pour cela, assura Parkinson.
Vous perdez la tête, les coupa sèchement Lucius.
Il fit mine de se lever, mais d'un même geste, Note, Parkinson et Rosier le retinrent.
Lucius, tu ne réalises pas. Toi et Narcissa, vous êtes tout simplement iconique, murmura Evan.
Résigné, Lucius se laissa à nouveau tomber dans son fauteuil avec un soupir de lassitude.
Enfin, pourquoi crois-tu que nous sommes si nombreux à nous presser auprès de toi et à chercher ton attention, à ton avis? Eh bien, c'est parce que tu nous inspires, parce que tout le monde ici rêve de te ressembler.
Tous les habitants de la colline d'Emeraude ont le portrait d'un Malfoy dans leur salon et dans un coin de leur tête, renchérit Note. Tout le monde espère avoir un jour ta richesse, ta prestance et surtout ton pouvoir. Et ils pensent naïvement qu'en gravitant autour de toi, ils pourront s'en approprier quelques fragments.
Voyez-vous ça, lâcha Lucius. Tu n'auras aucun effort à faire. Ils te tomberont tous dans les bras. Je le ferai bien à ta place, crois-moi, mais la moitié des habitants de la colline d'Emeraude croient que je suis foalié, dit Evan Rosier avec un petit rire qui légitimait largement ce soupçon. Tandis que toi, tu mettrais tous les sangs purs d'accord. Tu es le seul qui en ait le pouvoir.
Lucius attendait patiemment la fin de leur éloge, les yeux dans le vague, essayant de ne pas montrer l'effet que lui faisaient toutes ces flatteries.
« Imagine un peu !» lui murmura Evan Rosier à l'oreille. « Tous les sangs purs d'Angleterre, ralliés sous la bannière des Malfoy. Imagine ton portrait dans la galerie de tes ancêtres et ce qu'il y aurait écrit au-dessous si tu devenais le bras droit de tu sais qui. »
Comme Lucius ne répondait pas, Evan Rosier glissa un regard vers Parkinson et Note qui lui signalèrent d'un mouvement de tête qu'ils étaient à court d'arguments.
« Allons, mes amis, trinquons à nouveau, » déclara Note avec un enthousiasme fin.
Lucius tendit sa main vers sa coupe de champagne et Rosier lui agrippa à nouveau le poignet.
« Lucius, mon bon ami, promets-moi d'y réfléchir. »
« C'est tout réfléchi, » répliqua Lucius en se dégageant. « C'est non. »«
Allons, allons, encore un verre, » dit Parkinson en remplissant ceux de ses amis. « À la santé de Lucius !»«
À la santé de Lucius !» approuva Note en levant sa coupe.
« Doucement, mes amis !» tempéra Lucius en portant la sienne à ses lèvres. « La fête ne fait que commencer !»
Aussitôt Vera, Orion et Piscus Crabbe partis du manoir des Malfoy, Daisy s'en alla elle aussi. Narcissa l'embrassa avec enthousiasme et les deux amis se promirent de se revoir au plus vite. Après l'avoir vu disparaître dans la nuit sur sa moto volante, Narcissa sortit son journal rose et pailleté et entreprit d'y inscrire tout ce qu'elle venait d'entendre afin de n'oublier aucun détail de toutes les nouvelles informations qui tourbillonnaient dans son esprit. En une seule journée, Narcissa avait appris plus de choses sur la famille Malfoy qu'en deux années entières passées dans le manoir. En refermant son journal, Narcissa fit tomber sur le sol la photo qu'elle avait prise avec ses deux sœurs sur le chemin de traverse, juste après l'acquisition de sa nouvelle baguette et du sublime peigne d'Emeltou qu'elle avait offert à Andromeda. Sur la photo, les trois sœurs étaient fidèles à elles-mêmes. Andromeda souriait sagement. Bellatrix grimaçait un sourire renfrogné en essayant de sortir du cadre de l'appareil photo. Et Narcissa essayait de les rapprocher l'une de l'autre tout en regardant Bellatrix avec une admiration éperdue. En voyant leurs trois visages ainsi côte à côte, la nostalgie lui brouilla la vue. Depuis son mariage, Narcissa n'avait eu aucune nouvelle de Bellatrix. Si impétueuse qu'elle fût, et même si Narcissa avait initialement refusé de l'admettre,
sa sœur aînée lui manquait. Que devenait-elle? Était-elle en bonne santé? Qui prenait soin d'elle en l'absence de Narcissa? Sans surveillance, Bellatrix était capable du pire envers les autres, mais aussi envers elle-même.
Accueillir, c'est contrôler, avait dit Piscus Crabbe.
Et cette phrase commençait à faire son chemin dans l'esprit de Narcissa. Mais elle fut interrompue par des cris qui provenaient du rez-de-chaussée. Aussitôt, elle s'approcha de son miroir. Le reflet se transforma et elle découvrit qu'Abraxas était en train de se disputer avec Prisca.
« Abraxas !» disait Prisca avec sévérité. « J'espère que vous ne songez pas à faire ce à quoi je pense. »
Abraxas Malfoy se resservait un énième verre de vin, visiblement exaspéré par l'inquiétude de son ancêtre.
Il est temps pour Lucius de devenir un homme, Prisca. Il s'épanouit orgueilleusement dans ses réceptions fastueuses, mais il ne reste pas sur ses gardes, la preuve. Il ne prête aucune attention à ce vous savez qui, alors que c'est précisément lui qui devrait concentrer toute notre attention. Je repense à toutes les histoires que j'ai entendues à son sujet et auxquelles je n'ai pas accordé assez d'importance. Pour une fois, je crois que je me suis fourvoyé et que Crabbe a raison. Nous avons peut-être affaire à un véritable mage noir, au moins aussi puissant que Gellert Grindelwald. Et si celui-ci met ses menaces à exécution, il pourrait donc renverser le ministère. Il faut rencontrer cet homme, Prisca, au moins pour savoir de quoi il retourne. Lucius doit partir à sa recherche.
Abraxas, gronda Prisca. Cet homme est un meurtrier et Lucius n'a que 20 ans.
21 ans, corrigea Abraxas. Et c'est plus qu'assez pour sortir de son espace de confort et se mesurer aux dangers du monde extérieur.
Et que faisiez-vous à son âge? Vous faites le fier, mais vous n'étiez qu'un genou. Vous veniez de vous marier avec Athénaïs et vous ne pensiez qu'à roucouler dans le jardin. Lucius et Narcissa ne se voient qu'en pointillés. Vous ne leur laissez même pas le temps de profiter l'un de l'autre. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas encore de petit-fils. Je vous rappelle que c'est par votre faute que vous ressemblez à un mort-vivant et que ça n'est certainement pas une raison pour priver Lucius de sa jeunesse.
Prisca venait de dire tout haut ce que Narcissa pensait tout bas depuis plus d'un an. Intérieurement, elle se promit d'aller dans le jardin déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Prisca Malfoy dès le lendemain.
Un homme digne de ce nom est capable d'honorer ses obligations conjugales tout en participant aux luttes de pouvoir qui ont lieu au dehors, répliqua Abraxas Malfoy.
Et de toute manière, le temps presse. L'urgence n'est pas de fonder une famille, mais d'anticiper les conséquences du bouleversement qui se prépare afin de ne pas être pris au dépourvu.
Et lorsque Lucius l'aura rencontré, vous comptez aider Voldemort? Soyons honnêtes. Notre contribution sera probablement décisive dans le conflit qui l'opposera au ministère. Réfléchissez avant de l'aider à atteindre son but. Si Voldemort gagne, c'est un monde de chaos qui nous attend. Est-ce là ce que vous souhaitez?
Abraxas balaya la remarque d'un revers de main. La question n'est pas de défendre le bien ou de maintenir la paix, mais d'être toujours du côté du vainqueur, et entre une ministre désemparée et un mage noir au pouvoir possiblement stupéfiant, à votre avis, qui a le plus de chances de remporter la partie? Peu importe le résultat, un Malfoy doit faire le nécessaire pour rester au sommet de la pyramide, que celle-ci soit d'or ou de cendre. Autrement, il ne mérite pas de porter ce nom.
Abraxas posa son verre sur la table avec un geste qui scellait la fin de la conversation.
Narcissa ne voyait pas Prisca, mais au cliquetis de perles qu'elle entendait, la matriarche devait secouer la tête avec accablement. Au bout d'un long moment, Abraxas Malfoy se tourna vers la fenêtre, car un bruit métallique venait de leur signaler l'ouverture du portail en fer forgé.
« Ah, le voilà qui rentre !»
dit-il. Et le ton de sa voix ne laissait planer aucun doute sur le fait que les supplications de Prisca n'avaient eu strictement aucun effet. Quelques instants plus tard, depuis son poste d'observation, Narcissa vit l'ombre élancée de Lucius apparaître dans le rectangle lumineux que l'éclairage du couloir projetait sur la moquette verte de la bibliothèque.
« Entre donc !»
dit la voix glaciale d'Abraxas Malfoy.
Père, lui répondit celle de Lucius bien plus enjouée, vous êtes encore réveillé, quelle bonne surprise.
Tu vas voir si c'est une bonne surprise, marmonna Abraxas Malfoy sans que Lucius ne l'entende. Puis il haussa la voix pour poursuivre.
Approche et assieds-toi, j'ai à te parler.